Salut, c'est Starting Block. Nous avons tendu notre micro à Dennis Shane, cofondateur du label Atangana Records. Radio Campus Tour a eu le plaisir de rencontrer à distance un personnage original, grand pourvoyeur de musique antillaise. Personnage polyvalent, il a habité Lisbonne, Marseille, Tours, Berlin, passé quelque temps en Guinée aussi au Brésil et aujourd'hui, il s'est installé en Guadeloupe où il peut poursuivre sa démarche d'archéologue des musiques antillaises. Dans le désordre, Dennis Shane, c'est un digger, un tailleur de pierre, un percussionniste, un ingénieur du son, un mixeur, un surfeur aussi. Dans cette entrevue, on aura le droit à des anecdotes et la manière dont s'exprime son attachement pour les musiques antillaises. En direct de la Guadeloupe, c'est parti!
Demoiselle, pas nié yé qui meyé qui zoiseau. Aussi messieurs ont bon conseil, les sortions pomme baïti bon zoiseau. Asse la témé demoiselle, pas nié yé qui meyé qui zoiseau. Aussi messieurs ont bon conseil, les sortions pomme baïti bon zoiseau.
En fait, ici, il y a vraiment un style musical qui s'appelle la biguine, ouais. Qui est aussi présent en fait en Martinique. Sauf que la biguine de Guadeloupe vient du guoka. Le guoka vient du boulagué. Okay. Le boulagué, c'était à l'époque où les esclaves pouvaient travailler dans les champs de coton. Ils avaient le droit de jouer jusqu'à une certaine heure. Et à 20h, en fait, le maître, voilà, à partir de 20h, de jouer les instruments. Donc, en fait, les esclaves rentraient dans leur case. Et du coup, jouer le boulagué, ça fait jouer en fait tous les rythmes à la bouche. Et en fait, du coup, l'accent, parce que la biguine, ici en Guadeloupe, elle s'appelle le rythme de la caisse claire, qui fait takotuka, tukuta. Ça s'appelle le zandoli patilipa. Les gens, en fait, ils ne connaissent pas vraiment la musique antillaise. Ils connaissent le zouk, ils connaissent les morceaux qui ont cartonné ici. Mais en fait, avant ça, la musique ici, elle a commencé vraiment dans les années 50. À l'époque, c'était vraiment la musique de musicien, en fait, tu vois. Et moi, ce que j'ai voulu faire, on dépoussière les pépites, quoi. Tu vois, les choses qui ont marqué, on va dire, les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique et puis toutes les autres îles qui sont autour. Mais c'est des choses qui, finalement, quand tu ne viens pas vivre ici, en fait, c'est juste que tu, par hasard, peut-être tu peux trouver. Dans le label que j'ai, donc Atangana Records, le concept, parce que moi je viens du sound system et du coup et du hip-hop. En fait, à l'époque, quand on achetait des disques, sur la façade de hip-hop, on avait l'instru complète, la face B, on avait le vocal et l'instru, ce qui nous permettait à l'époque de faire du scratch et de refaire nos versions en live via du passe-passe, etc., etc. Du coup, c'est un concept que j'ai voulu amener dans mon label et c'est vraiment le Hard Parts qui, pour moi, correspond vraiment à la version DJ. C'est-à-dire que le remix, tu essayes toujours de coller un peu à l'original et de le sublimer. Et dans le Hard Parts, finalement, tu gardes que ce que le DJ remixeur a chopé en sample et tout ce qu'il a remis en batterie, toutes les boucles qu'il a fait. We'll be right back. Donc en fait, le truc de ce morceau-là, c'est que j'étais à Marseille à l'époque, et il y a un pote à moi qui venait d'acheter un appart avec un super rooftop, enfin un truc de fou. Donc je l'aide à faire son déménagement, tu vois, à la fin on était complètement morts, on se fait un petit barbecue, tous les gens se barrent et tout, et puis nous on se dit, ouais, vas-y, on n'a pas envie de dormir, on était un peu chaud du déménagement, tu vois, tu sais, quand tu fais trop d'efforts, au bout d'un moment, tu ne peux pas aller te coucher. Il me dit, vas-y, viens, on commence à diguer, tu vas aller aux Antilles, on essaie de chercher des morceaux avant que tu partes et tout. Donc on cherche plein de morceaux, et puis on tombe sur une chaîne d'un monsieur qui s'appelle Manolo Tobi, qui était le radiotechnicien de la radio RCI Martinique, qui est un gros collectionneur, qui a des centaines de milliers de disques, enfin, c'est abusé. Du coup, au début, on digue, puis tu vois, au bout d'un moment, hop, on fait le barbecue, machin, le son tourne en boucle, et puis d'un coup, ça s'arrête. Et là, on se dit, merde, ça a bugué. Et en fait, c'était pas du tout ça, c'est que toutes les vidéos de Manolo Tobi, quand il commence, il présente la pochette devant la caméra, il filme sa platine, il touche tous les boutons de sa platine, donc ça met un gros blanc de 40 secondes, tu vois. Donc nous, on se dit, merde, il y a plus de musique, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le retour toto, ça part direct. Et là, on se regarde avec mon pote, on dit, mais c'est quoi ce track de fou, là? Genre, c'est quoi ce truc de malade? Et du coup, j'ai commencé à bosser sur le morceau. Du coup, j'ai découvert que c'était les studios Debs qui avaient découvert ça. Et comme je savais que j'allais venir en Guadeloupe pour chercher un autre artiste qui s'appelle Henri Wenceslas Thénard. Du coup, en fait, j'ai commencé à choper les licences et tout ça quand je suis venu la première fois. Et quand je suis rentré à Marseille, je me suis dit, bon, on a sorti le fait d'y aller à la guerre, mais là, il faut vraiment sortir un truc avec le retour de Toto, il faut vraiment faire un remix. Et à l'époque, je travaillais chez Galette Records à Marseille. Assez fou dans les années 90, fin 90, début 2000. Et lui, il me dit, vas-y, viens, on fait le remix ensemble et tout. Donc en fait, on bossait toute la journée au shop et on passait des nuits complètes. Mais on a fait le remix peut-être en une semaine, parce que j'avais déjà la deadline du master. On était très contents de ça, quoi. Donc c'était les premières productions en mode, tu bosses à côté, t'as pas le temps, tu fais tout pour que ça existe. C'était un disque assez fou. Le concept et le principe un peu de la Tangana Records, c'est de refabriquer un nouvel objet, en fait, tu vois, qui, du coup, tu prends l'original, tu refais un truc avec des remixes, et du coup, ça devient un nouveau disque, en fait. C'est pas de savoir combien ça coûte, c'est de se dire, de ça, j'en ai refait un nouveau disque, qui fait que dans 40 ans, ce sera un disque à part entière, en fait. quand je suis venu la première fois pour chercher justement les Maxels et Henri Wentzis Lassénard, j'ai rencontré du coup Rico Debs, qui était en pleine restauration en fait de son studio, le studio du papa en fait. Donc il m'a proposé de venir pour restaurer en fait toute la collection de vinyle. Donc on a travaillé 4 ans ensemble. Donc ça a été beaucoup d'investissements financiers pour lui évidemment. Donc pendant 4 ans, j'étais tous les jours au studio à enregistrer les disques, à chercher une façon d'enregistrer, de restituer le son sans le dénaturer, mais de travailler avec les techniques d'aujourd'hui. Et ce qui était complètement fou, c'est que bon, je vais rentrer un petit peu dans le côté technique sans partir dans en mode époque. Le système audio qu'on avait, les cartes son qu'on avait, les câbles, les tables de mixage, quand on enregistrait un groupe, avaient des limites parce que la technique n'était pas aussi développée qu'aujourd'hui. Et quand tu restaures un 45 tours ou un 33 tours, tu l'enregistres, tu l'écoutes aujourd'hui avec les moyens techniques qu'on a, qui sont la musique urbaine avec des grosses basses, machin, etc. En fait, quand j'enregistrais les 45 tours de l'époque, au début, je me suis dit comment je vais les faire sonner avec le son d'aujourd'hui tout en respectant le son de l'époque, sans les dénaturer. Je parle pas de faire de remix, je parle juste d'enregistrer un disque et de le remettre techniquement parlant au niveau pour des plateformes Spotify sans que ça sonne, tu vois, t'écoutes un truc de... Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que Henri Debs est tellement précurseur de plein de choses au niveau technique que, par exemple, quand on enregistrait à l'époque des musiques comme la Biguine ou des trucs de jazz un peu années 60, la basse était toujours un peu... On coupait la basse pour qu'elle sonne médium, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle sonne grave, bo 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 bo, elle sonne bi 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 bi. Et en fait, Henri Debs a laissé le spectre audio, c'est-à-dire qu'en fait, il a laissé la chance à quelqu'un comme moi qui va arriver 40 ans plus tard. Il n'a pas enlevé les fréquences basses, sauf qu'aujourd'hui, comme elles existent, on peut les remonter et faire que quand on reproduit le track de l'époque, et ben quand on rebooste, quand on retravaille un petit peu le son avec les techniques et la technologie qu'on a aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, quand on écoute, on se dit, mais ça a été enregistré hier. Par exemple, moi, j'ai fait la compilation Musique la cadencée. Ça m'a pris 1 an et demi parce qu'à l'époque, j'apprenais vraiment à faire du mastering. Enfin, mastering, c'est pour les gens qui écoutent. C'est en gros, c'est quand un groupe enregistre dans un studio, l'ingénieur son va mélanger la guitare avec la basse, avec la batterie pour qu'on puisse tout écouter. Ça s'appelle le mix. Et une fois que ça c'est fait, il faut normaliser le son pour qu'il puisse sonner sur ton téléphone, sur ton ordinateur, sur une grosse sono, plus ou moins dans le même équilibre. Travail de mastering, et ça, c'est un vrai travail qui n'est absolument pas connu du grand public aujourd'hui, mais il faut que le grand public se rende compte qu'il y a toujours un gars qui fait en sorte que la musique sonne dans ton casque avec tes petits écouteurs, etc., etc. Et ça, c'est le travail de mastering. Je suis rentré dans le studio Debs Music. J'ai rencontré Mister Frankie, qui est un producteur, un ami à moi déjà. Avant d'être producteur, c'est un très grand ami à moi. C'est un pianiste, il est auteur, compositeur, interprète. Et surtout, il est vraiment, niveau technique du son, c'est lui qui a remonté le nouveau studio avec Rico. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances techniques. Et en fait, quand je suis arrivé au studio, lui, direct, il m'a dit: mais toi, t'es un ingénieur master, mais tu ne sais pas. Et moi, je lui ai dit: mais c'est quoi le mastering? En fait, je ne savais même pas c'était quoi. Donc, en fait, j'ai fait mes armes. Il m'a fait une formation et j'ai fait mes armes. Et en fait, le mastering, c'est vraiment le fait de pouvoir faire sonner. Les mecs arrivent en fait en studio. Eux, sont musiciens. Ils ont pensé à la gamme, au machin, au chromatique, au pont. Tu vois, à la section cuivre, à l'arrangement, tu vois. En fait, ils ont pensé à la musique, mais ils ont bossé avec un bon technicien qui a enregistré les choses de la bonne façon, qui a fait le bon mix et qui a laissé le spectre sonore de façon à ce que l'ingénieur mastering derrière arrive et dise: ok, alors en fait, votre groove, il est plus basé sur la guitare, la batterie, elle est un petit peu plus en arrière, mais la grosseur, c'est importante, la basse sonne comme ça. Et en fait, toi, au mastering, tu fais ressortir la présence de chaque instrument qui fait qu'à la fin, c'est le mastering qui va faire le son du groupe. Bah, justement, avec Katangana Records, on avait sorti le Fédia la guerre et on était sur un track que moi j'avais envoyé à mon associé en fait, Thomas, et il n'avait pas trop kiffé à l'époque. Et puis d'un coup, bam, il me renvoie le truc et là il me dit: ouais, c'est le track de fou et tout. Et je dis: mais ce track me dit quelque chose, parce que moi-même j'avais oublié que je lui avais envoyé ça. Et en fait, d'un coup, il me sort le truc de Henri Wenceslas Lénard, ne dit pas cela, quoi. Donc en fait, moi j'oublie complètement l'histoire et je dis: ok, bon, en fait, quand tu me le renvoies, pour la petite histoire, c'est que moi je me dis: bon, c'est un peu 80, nous on est plus dans les années 70. Mais bon, c'est mon associé dans le label Ensemble, si lui il kiffe, je pense que si lui il kiffe, moi je vais kiffer après. Et en fait, à force d'écouter le track, je me suis dit: putain, c'est une brûlure complète. Et en fait, pendant un an, j'ai fait des recherches en France dans tout ce qui était on va dire, comment dire, les centres sociaux, culturels, musicaux à Paris, antillais, machin. Et je rencontrais des gens qui me disaient, ah, mais en fait, Henri, il est là. Mais en fait, Henri, il est reparti. Henri, et au bout d'un moment, j'ai réussi à mettre assez d'argent de côté. J'ai dit à Thomas, j'ai dit, écoute, vas-y, viens, je vais en Guadeloupe, on va chercher le gars, parce qu'apparemment, il est entre la France et les Antilles, et donc, il faut vraiment le rencontrer, quoi. Donc, je suis venu ici en Guadeloupe il y a 6 ans, 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans, je sais plus. Et chercher en fait tonton Henri quoi partout. Et du coup, j'ai dit à Thomas, écoute, si je vais aux Antilles, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de contacter le studio Debs et puis on va voir avec eux parce que moi, j'aimerais bien qu'on fasse une compilation, quoi. Donc, je cherche sur Internet, je trouve le numéro, j'appelle, je tombe sur Laurence qui à l'époque était la secrétaire de direction du label, qui est une dame, qui est une femme absolument géniale, quoi, qui est pleine de speed, super open à plein de trucs. On a passé des heures au téléphone. Et donc, quand j'arrive en Guadeloupe, elle me dit, mais passe au studio, quoi, passe au bureau, parce que le studio est en rémodélation, donc ils font plein de travaux, mais passe au bureau, c'est juste à côté. Et pour l'histoire vraiment rigolote, c'est que j'arrive devant le bureau, et là, il y a Rico avec son oncle qui est devant. J'arrive, moi, je les check, parce qu'ici, on se check, on se tape le poing, quoi, quand on se dit bonjour. Donc, je les check, et je dis, oui, bonjour, je rentre avec Laurence. Il me dit, ah, elle est à l'intérieur. Donc là, je rentre, je dis, ah, salut Laurence, machin, je parle avec elle. Et je lui dis, du coup, Rico est là. Elle me dit, tu l'as croisé devant la porte. Et donc là, j'étais en mode, oups, voilà. Et du coup, bon, voilà, je parle avec Rico, il me demande un peu mon parcours, je lui raconte, etc., etc. Il me dit, écoute, là, je suis en train de restaurer le studio de mon papa. Et du coup, on a toute la collection de vinyles là. En fait, on aimerait bien la digitaliser, mais ça coûte très cher parce que lui, il avait un plan de studio de restauration de vinyles à Paris. Donc, il fallait envoyer tous les vinyles à Paris avec le poids. Enfin, bon, ça coûtait vraiment une blinde par disque, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je fais ça toute l'année parce que je digitalise tous mes tracks. Et du coup, moi, je peux faire ça pour toi, quoi. Et du coup, voilà, on a parlé et puis on est arrivé au fait de. Bah, écoute, tu rentres en France, tu prends tes affaires et puis tu reviens. Et puis, Rico a beaucoup investi sur le projet. Et en fait, maintenant, il est en train de travailler sur le fait de sortir une partie du catalogue qu'on a, parce que j'ai restauré en 5 ans, 1700 tracks, ce qui est quand même beaucoup. Chaque disque, il faut les prendre, il faut les nettoyer. Des fois, tu nettoies une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 15 fois, 20 fois. Tu l'enregistres en temps réel. Après, tu le mets dans ton logiciel. Après, tu le prémixes. Après, tu l'exportes. Après, tu masterises. Voilà, du coup, c'est un travail de longue haleine. Faire en 2 heures, puis des fois, il y a un disque que tu vas faire en une semaine. Il y a beaucoup de gens qui jettent. Et en fait, le fait de digitaliser fait que tu immortalises. Dans le monde entier, il y a beaucoup de subventions de l'État, de plein de pays. Ils appellent ça le patrimoine immatériel. Et en fait, le fait de le digitaliser, qu'il soit sur un serveur, sur Internet ou quoi, fait que du coup, il devient quand même, on l'a sauvegardé à vie, quoi qu'il arrive. C'est un vrai travail, ouais. En plus, c'est un travail qui n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, on fait du son pour enregistrer des groupes, on fait du son pour faire du beatmaking, on fait du son pour. On fait pas de son pour, comment dire, restaurer.
Mes fois avant sous le jet en boucle. Yo ka porte souliers à talons hauts. La pouille marche, yo ka tombe. Yo ka porte souliers à gros talons. La pouille danse, yo ka tombe. En partie dit yo pas ni bon pied, mais c'est ça yo vle.
Soule à talon,
et ça yo le porte.
Soule à talon,
yo pas me laisse yo tombe.
Soule à talon,
et ça yo le porte.
Soule à talon,
yo pas me laisse pied yo cassé.
Soule à talon,
Martinique yo ka porte.
Soule à talon,
Dominique yo ka porte.
Soule à talon.
Yo ka porte
soule a talon
Guadeloupe yo ka porte
soule a talon
Apache Je ne convie tout le monde, c'est ça, yo vle. Yo pa vle tennis,
yo pa vle bot Sou le talon bo yo ka achete La pou yo koumi se yon problem Men se sa yo vle
Sou le talon
E sa yo le porte
Sou le talon
Yo pa me lesi yo tombe
Sou le talon
E sa yo le porte
Sou le talon
Yo pa me lesi pie yo kase
En Guadeloupe, je pense, hein, parce qu'après la Martinique, je ne suis pas assez spécialiste, parce que je vis en Guadeloupe, donc c'est quand même, tout le monde dit que c'est pareil, mais c'est quand même deux îles différentes avec deux cultures différentes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est que les deux ont vraiment des cultures musicales qui sont absolument chambées, mais il faut vraiment s'immerger dans une ou l'autre pour vraiment aller jusqu'à la racine en fait, de la musique. Ici, tous les groupes, avant qu'on n'arrivait pas à identifier musicalement, on disait « ouais, c'est jazz ». Et en fait, en Guadeloupe, il y a eu quelques producteurs comme Cellini, le label Ozon, comme Henri Debs, qui ont commencé leur label. Henri Debs a commencé son label parce qu'il était musicien et qu'il... Au bout d'un moment, les éditions Philips étaient sur l'île. Ils produisaient beaucoup d'artistes ici. Et quand les éditions Philips sont parties, Henri Debs s'est dit « mais ils ne peuvent pas partir parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait de nous, de notre musique ?» Donc, il a racheté des machines pour produire. Enfin, il a fait tout un espèce de process qui était vraiment personnel. Et du coup, il a parié sur le fait que la musique des Antilles tu vois, était tellement forte qu'elle ne pouvait pas disparaître. Donc, il a fait le pari de tout reprendre. En fait, ce que je voulais aussi que les gens comprennent, et ce que les gens, parce que les gens n'ont pas accès à ce genre de choses, et du coup, je vais faire des podcasts là-dessus, c'est qu'en fait, quand on est DJ, on est passionné de musique en général, que ce soit en hip-hop, en musique électro, en ce que tu veux. On collectionne des disques parce que quand on va jouer, ben, on a envie de mettre les gens à danser. Mais quand on commence à collectionner des disques qui font jouer, on va lire les pochettes, on va ce groupe-là, mais je ne connaissais pas. Mais ce gars-là, en fait, il était chanteur de tel groupe, mais je ne savais pas. Et en fait, ça nous amène dans un monde qui fait que nous, du coup, on va collectionner des disques. Et les trois quarts des disques qu'on a, peut-être pas les trois quarts, enfin, en tout cas, je parle pour moi, qui est une collection de quelques milliers de disques. Les disques qu'on joue en soirée, on sait que c'est mash-up, c'est banger, ça va tout défoncer. Mais en fait, on est arrivé à choisir cette musique-là qui va faire danser les gens parce que derrière nous, on a connu 50 morceaux et 50 disques. Quand on est DJ, en fait, moi, quand je suis DJ, les gens, ils connaissent, mais j'espère qu'ils connaissent mes... Mais set, quand je viens jouer, je joue que des tracks dancefloor parce qu'à l'époque, les groupes jouaient pour que les gens dansent. Et en fait, du coup, de passer le témoin, c'est quand même une mission, je sais pas comment dire ça, mais une mission qui est un peu compliquée parce que bah, la réalité de la vie, tu fais ça parce que par amour. Nous, on a monté l'asso là depuis un an. On a fait quelques trucs qui font que. Aujourd'hui, on commence à avoir des contacts, mais tu vois, c'est, du coup, tu fais ça, après tu vas bosser, après tu as un boulot, du coup, tu vois, c'est du coup, sont régulières et en fait. Du coup, ça prend énormément de temps. Et le problème, il est là, c'est qu'à des moments, il y a des gens qui se découragent, et je comprends complètement, parce que c'est vraiment c'est une conviction, en fait. Si tu n'es pas vraiment convaincu à 100% du truc et que tu n'y crois pas, mais à 1000%, c'est quelque part, c'est une mission humaine de se dire, bah, en fait, moi, je fais le pari en fait, d'enchaîner toute ma life et finalement, bah, de mettre tout mon cœur là-dedans. Et puis, même si je ne gagne pas d'argent avec ça, mais je sais que derrière ça, quand je serai crevé, bah, y a des gens qui vont se dire, bah, merci à ce gars-là. En fait, les Antilles, c'est vraiment un mélange de beaucoup de choses et en fait les gens connaissent malheureusement que le zouk et du coup moi-même le premier c'est genre la Guadeloupe ouais c'est zouk mais en fait non c'est pas zouk en fait il y a eu plein de choses avant sauf qu'avant rien n'a été ça n'a pas été promu par les gens et en fait au final c'est ce qui est avant le zouk avant les années 80 de 50 à 79 finalement c'est ça qui fait la richesse des Antilles.
C'était Starting Block avec Denny Shane, cofondateur du label Atangana Records. Nous le remercions infiniment de nous avoir partagé une partie de son univers. Et rappelons qu'il mène ce beau projet d'entretien du patrimoine musical antillais via l'association Sakatoune. Merci d'avoir été à notre écoute.